agriculture bio, labels divers et variés, produits naturels, légumes locaux. Les appellations qu'on trouve dans les rayons fruits et légumes de nos supermarchés sont multiples.
On pense souvent que le bio est meilleur pour la santé, même si la carotte ou le kiwi qu'on achète a été cultivé à des milliers de kilomètres de chez nous.
Lucien Vimin s'investit dans l'écologie et nous propose de voir les choses différemment et de sortir de nos idées reçues. Il est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Lucien, vous avez un parcours de vie bien rempli, vous avez été banquier, horloger, promoteur immobilier, et puis tout d'un coup vous avez décidé de consacrer votre vie à l'écologie. Alors pourquoi cette reconversion assez violente quand même ?
Ben en fait, disons, tout ce parcours m'a permis de me rendre compte de ce qui se passait autour de la planète aussi, parce que pas mal de voyages. Et puis, tout ça fait que la nature, j'aime aussi, j'aime la vie en fait, en général. Et puis, quand on aime la vie, ben, on aime les gens, mais on aime aussi la nature, et puis on a envie d'en prendre soin.
Et quelles sont vos actions écolo au quotidien ? Est-ce que vous avez dû radicalement changer de façon de vivre ?
Ah, c'est pas fait radicalement, ça fait petit à petit. C'est vrai que tout d'abord, la première chose il me manquait une pièce de puzzle en fait. J'avais un tableau, mais il y avait juste une pièce de puzzle qui me manquait, c'était l'énergie grise. L'énergie grise, je l'ai rencontrée lors de ma profession dans l'immobilier, où là, après 2 ans d'activité immobilière, j'ai compris qu'un promoteur immobilier avait une très très large responsabilité en matière environnementale. Et puis c'est là que j'ai rencontré, mais c'était en 97, vous voyez, ça fait déjà 20 ans, on ne se rajeunit pas. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, c'était une carte importante. Et c'est là qu'un architecte m'a expliqué ce qu'était l'énergie grise. Et cette pièce-là du puzzle m'a permis de voir l'entier de l'image. Et à partir de là, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu beaucoup plus large que ce que je voyais auparavant. Et l'énergie grise m'a permis de comprendre que l'écologie n'était pas seulement une question qui se passe ici, mais ça se passe dans le global, dans l'ensemble de la planète. Et à partir de là, certains messages que je recevais à travers les médias, à travers les programmes politiques ou les publicités semblaient vraiment pas vraiment être dans le bon sens. Je me suis rendu compte que j'étais pris dans beaucoup d'idées reçues et à partir de là j'ai décidé de m'ouvrir à cette vision nouvelle et d'appliquer les choses à mon quotidien. Donc c'est vrai que j'étais un bon consommateur, hein, mais maintenant c'est vrai que ça change un petit peu. C'est vrai que j'ai plus que 2 pantalons, par exemple, j'ai 2 jeans. J'ai pas de nattel, j'ai jamais eu de nattel en fait, une vieille voiture, une vieille téloche, et voilà, on achète beaucoup dans le seconde main, parce que j'ai pris conscience que de fabriquer un objet, qu'on le veuille ou non, ça péjore la vie quelque part sur Terre. Et quand on a envie de prendre soin de la vie, ben, on fait pour que ça aille mieux.
Vous êtes père de famille, vous avez des enfants, des ados, je crois,
oui.
À peu près. C'est facile, eux, de les convaincre ce mode de vie.
Alors, il y a de la vie à la maison.
De pas avoir de portable, de réfléchir à sa consommation.
Alors, c'est vrai que depuis tout le temps, ils sont un peu trempés là-dedans, parce que quand ils sont arrivés, nous étions déjà en réflexion avec mon épouse au moment de leur naissance. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est une période un peu particulière quand même. Hein. Et on me disait souvent, petits enfants, petits soucis. Je me disais, ouais, bon, je me réjouis d'avoir des enfants un peu plus grands, qu'on puisse commencer à parler ensemble, à échanger avec des visions un peu plus adultes. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. En ce qui nous concerne, on a de la chance. Manon est une fille qui, elle, est végétarienne. Depuis 1 an et demi, elle l'a choisi par elle-même. Léo, lui, n'a pas Natel, il n'a jamais voulu Natel jusqu'à présent, il n'en a toujours pas. Pourtant, l'année passée, c'est encore moi qui lui demandais, mais t'es sûr que tu n'en veux pas? Et finalement, non. Et puis voilà, et Zoé, elle aussi, c'est simplement, ils vont beaucoup dans seconde main. Et puis les Natel, par exemple, de Manon et de Zoé, c'est du seconde main, donc voilà, on s'habitue à ça. Oui. Ouais. Mais c'est clair que certaines fois, il y a il y a des objets neufs qui s'achètent quand même, on essaie vraiment de limiter au max, quoi.
Donc ils suivent de plus près vos pas.
Disons que j'espère pas que ce soit suiveur, j'espère que ce soit surtout les acteurs. Hein. Moi c'est ça, mon travail c'est vraiment d'essayer de poser des graines de compréhension pour que chacun puisse comprendre comment fonctionne tout ce bazar et puis qu'à partir de là, on puisse se réapproprier la réflexion pour justement pouvoir redevenir acteur. On est beaucoup trop suiveur actuellement. On a tendance à répéter ce que l'on entend sans y réfléchir par soi-même et puis avec ça, on devient suiveur et finalement, c'est là qu'on entre dans des idées reçues qui sont des fois parfois bien ancrées dans le collectif et c'est ça qu'il s'agit de faire, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de s'extirper un peu de ce collectif pour pouvoir y réfléchir et ouvrir à plus large.
Justement, on parle des jeunes, l'éducation de la future génération, est-ce que pour vous, c'est la clé pour un avenir plus sain?
La clé, on a chacun d'entre nous, c'est la clé. Hein. Je crois qu'on ne peut pas donner la responsabilité uniquement aux jeunes. On me dit souvent, ouais, c'est bien d'aller dans les écoles, c'est pour la jeunesse qui doit savoir. Non, nous, on doit les accompagner. Moi-même, dans la génération, j'ai bientôt 50 ans, et j'estime que mon travail, c'est d'essayer de créer un terreau fertile, parce que je sens beaucoup de jeunes, je rencontre beaucoup de jeunes à travers la chaussure rouge, notamment, beaucoup de jeunes entre 18 et juste à l'aube de la trentaine, une merveilleuse jeunesse, des jeunes qui ne sont plus dans notre vision des choses, où ils ne veulent plus forcément travailler comme on a eu travaillé. C'est pas qu'ils aient un poil de la main, mais c'est que simplement la société de productivisme que l'on vit aujourd'hui ne leur donne plus de sens dans leur vie, et ils travaillent 50 à 60%, et le reste de leur temps, ils sont très actifs pour des associations, des ONG, où ils retrouvent des éléments qui font sens dans leur vie. Et cette jeunesse-là, d'ici 15 ans, c'est eux qui seront au gouvernement, c'est eux qui prendront les décisions, et mon travail, c'est vraiment essayer de créer le terrain le plus fertile possible pour que ces jeunes pousses puissent vraiment exploser, dans le positif, on est d'accord, hein, exploser le jour où ils auront la possibilité de prendre les choses en main. C'est important.
Et vous avez écrit un nouveau livre, un livre qui s'appelle « Tu parles Charles, manger local, c'est loin d'être idéal ». Alors il traite de l'agriculture chimique et bio et du choix que nous avons pour nous nourrir. Et ça, on va en parler d'ici quelques minutes après quelques notes de musique.
Jusqu'à 9h, format A3.
Une carotte bio, une carotte locale, laquelle est la meilleure pour la santé?
Lucien Vimin s'est penché sur cette question. Il écrit un livre qui s'appelle « Tu parles Charles, manger local, c'est loin d'être idéal ». Un titre évocateur et un peu provocateur également.
L'auteur est avec nous ce matin. Alors Lucien, on va commencer par lire un extrait de cet ouvrage qui va nous mettre directement dans le bain. Le moment est venu d'en finir avec les prises de tête. Cessons de tergiverser. Appelons un chat un chat. Une carotte conventionnelle est une carotte chimique. Qu'elle vienne d'ici ou d'ailleurs. C'est un fait qu'il s'agit maintenant d'ancrer dans l'esprit collectif. Nos choix en seront félicités. Donc, pour permettre une décision éclairée, la véritable question est, alors, que choisir? Carotte chimique, locale ou carotte bio, d'ailleurs? Et soudain, tout s'éclaire. Ceci dit, chacun et chacune reste libre devant ce choix. Donc, si vous désirez préserver votre santé, mangez bio, même s'il vient de loin. Il est clair que la meilleure option est de consommer des denrées bio d'ici. Alors voilà, Lucien, ça résume un petit peu votre livre. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire là-dessus?
Oui, en fait, ce qui se passerait que si aujourd'hui on fait un micro-trottoir et qu'on va poser la question aux gens, que choisissez-vous entre la carotte bio étrangère et la carotte non bio d'ici? On peut être sûr qu'à peu près 95% des personnes choisiront la carotte non bio d'ici. Pourquoi ça? Parce qu'on a une fâcheuse tendance dans nos programmes politiques à nous apprendre à voir le transport, hein, toute l'énergie du transport. Et on a nos programmes politiques qui réduisent l'écologie à une question de dépenses énergétiques pour essayer de contenir le réchauffement climatique. Et puis, ça veut dire qu'on va nous inviter à justement manger du local ou alors de changer d'appareil régulièrement pour éviter, avoir des appareils qui consomment moins, que ce soit une voiture, un appareil électroménager. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est la pollution chimique. La pollution chimique, on n'en tient pas du tout compte dans nos programmes politiques, et ça, c'est une grande bévue. Et quand il s'agit de choisir entre une carotte bio qui vient de l'étranger ou une carotte non bio qui vient de Suisse, eh bien, c'est là qu'on ne voit pas. On ne voit pas, d'une part, il faut se dire que la carotte qui a poussé à côté de chez moi d'une manière conventionnelle a aussi généré des transports, parce qu'il y a eu les transports de la chimie. Et ces transports-là, on ne nous en parle jamais.
Mais Lucien Vimin, une carotte bio ou une carotte conventionnelle, on va dire, produite ici, on sait comment elle a été produite. Un label bio à l'étranger, déjà ici on a de la peine à s'y retrouver au milieu de tous ces labels bio. Un label bio à l'étranger, comment est-ce qu'on sait comment il a été attribué, quelles sont les conditions, etc. J'ai entendu parler de certains pays européens où on peut avoir le label bio si on plante bio un terrain qui est cultivé de façon bio une année sur deux.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pour y voir clair, j'invite tous les auditeurs à peut-être prendre le temps de lire le cahier des charges de tous ces labels bio. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Hein. On a il y a le bourgeon suisse et le bourgeon, c'est-à-dire que quand il y a le bourgeon, on sent le suisse, c'est-à-dire qu'il vient de l'étranger. Ça, c'est un label qui est celui. Il n'y a pas de différence entre ces deux labels, par exemple. Maintenant, il y a le label Bio Europe, il y a aussi le label AB et le label allemand. Et le label AB et le label allemand, qui est comme un petit personnage dans un hexagone, en fait, ont dû justement être un peu allégés depuis 2009, dès le moment où est arrivé plus en force le label Bio Europe, qui est la fameuse feuille étoilée. Alors, ce qu'il s'agit de savoir, c'est quelles sont les différences entre le bio suisse et le bio européen. Eh bien, les différences, elles ne sont pas si grandes que ça. On nous dit souvent, ouais, c'est une grande différence entre le bio suisse et le bio européen. Ce n'est pas si grand que ça. Je vous l'explique. La première, il y a trois éléments fondamentaux. La première différence, c'est que dans un aliment qui est composé, un biscuit par exemple, et on peut, en l'intérieur, le label Bio Europe, on peut très bien avoir 5% de non-bio. C'est ça une des différences. Deuxième différence, c'est que au niveau de l'OGM, on peut très bien aussi avoir 0,9% de présence d'OGM par contamination pour un produit Bio Europe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans un train, il y a un transport de, par exemple, de maïs OGM, et ce même train va transporter ensuite du bio. Et à partir de là, il peut y avoir contamination. Donc il y a une acceptation de cela. Et puis le troisième élément, ce que vous disiez tout à l'heure, là, c'est le plus dommageable, c'est qu'une exploitation en France ou en Italie notamment, mais ça peut se faire sur l'ensemble de l'Europe, peut très bien avoir la moitié du domaine en bio et l'autre moitié en non-bio. Mais les cultures doivent être différenciées. Donc effectivement, c'est moins bien. Donc c'est pour ça que tous les anciens agriculteurs, par exemple bio AB de France, sont mis ensemble. Ils n'étaient pas contents de cette évolution-là et ont développé un label bio cohérence qu'on verra peut-être gentiment sur les paquets. Mais ceci dit, au-delà de ça, c'est pas de grande différence. Et puis il faut dire quand même que le label bio et la feuille étoilée, elle a aussi un avantage par rapport au bio suisse. C'est au niveau des animaux, par exemple, on ne peut pas attacher les vaches, alors que le bio suisse le permet. Et au niveau de l'équilibre des fumures, bio suisse est beaucoup plus laxiste que le bio Europe. Donc on voit qu'il y a à prendre d'un côté et de l'autre. Donc, voilà. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est label. Il n'y a pas que les labels bio. Les labels bio, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, surtout, ce qu'il y a beaucoup, c'est des labels de produits locaux. On a on a le Terra Suisse de Migros, de la région, de ma région. On a aussi tous les produits du terroir. Est-ce que on nous invite régulièrement, au niveau de la population, c'est de manger local. Parce que ces labels-là sont synonymes de l'esprit collectif, de qualité, de santé et d'écologie. Et c'est là que le bât blesse. En fait, ces labels de proximité cachent la réalité de l'agriculture qui nous entoure. En fait, une agriculture qui est très axée sur la chimie. Et cette chimie, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est déjà du transport, mais au-delà du transport, il faut aussi la fabriquer. Et cette chimie, lorsqu'elle est fabriquée dans des usines vraiment immenses, faut voir à quoi ça ressemble de l'autre côté de la planète ou dans les pays qui nous entourent, c'est aussi beaucoup de chimie, d'énergie grise d'une part, l'énergie, mais c'est aussi beaucoup de chimie qui part dans les sols, dans les airs et dans les eaux. Donc ça pollue énormément à la fabrication. Et cette pollution chimique, on la retrouve aussi à l'épandage. C'est-à-dire que lorsque la chimie est arrivée jusque chez l'agriculteur et que l'agriculteur épand cette chimie dans ses champs, là, de nouveau, on a une pollution, bon, déjà d'énergie grise pour l'épandre, mais on a aussi de la pollution chimique dans l'air, dans les sols et dans les eaux. Et ça, c'est important parce que cette pollution chimique-là, c'est la pollution qui tue la vie. Il faut savoir que tous ces pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, tous ces mots qui finissent en cide, eh bien, ont un rapport avec la mort. Un mot qui a comme suffixe cide, comme suicide par exemple, a un rapport avec la mort. Et lorsque le suffixe cide détermine un produit, ça veut dire que ce produit répand la mort autour de lui. C'est ça la réalité.
Merci Lucien Vima d'être passé dans nos studios ce matin. En tout cas, bien sûr, vous donnez des conférences. Ces conférences seront toutes mises en ligne sur la page de Format A3. Et on vous souhaite une excellente continuation.
Merci. Oui, effectivement, au niveau des conférences, est-ce qu'on a le temps quand même de les annoncer un peu ou bien?
Alors, ça sera le 24 novembre à Basse-Cour, le 1er décembre à Porrentruy, le 7 au Noirmont, le 18 décembre à La Chaux-de-Fonds. Les détails sur la page de Format A3 tout
Merci
à l'heure.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.
A3, c'est plus sympa. Format A3.